Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre deux chemises. Puis il leur dit, « Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis, en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que cette ville-là. » Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et n'avait pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages, des environs, pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes.
Merci, Raphaël. Bonsoir. Avant que je commence, hier, c'était le deuxième entre-femmes. Et Christine, Susanna et Carol étaient très impliquées dans l'événement. Il y avait combien de femmes hier? À peu près 60 femmes. Et donc, c'était très encourageant. Donc, on peut prier pour l'année prochaine et avec l'organisation et tout ça. Donc, merci Christine, Susanna et Carol. C'était avec... Quoi? Oh. C'était chouette qu'ils ont organisé tout ça avec d'autres églises Caris à Lyon. OK, ce soir, on continue notre série sur l'Évangile de Marc. La première question, c'est pour ce soir. Comment pouvons-nous être une personne ou une communauté épanouie et vivre en plein épanouissement? Comment ça peut marcher? Ralph Waldo Emerson a écrit « La vie est un voyage, pas une destination ». Waldo et les autres intellectuels, ils ont pensé que la vie épanouie, ça veut dire que c'est l'autonome, c'est l'individu autonome, c'est la communauté on n'a pas besoin de la communauté, et c'est juste à partir des individus et des personnes indépendantes. Le voyage d'une vie épanouie, c'est pour eux et davantage centré sur l'aspect spirituel et les choses mentales de l'être. C'était vraiment des zen, des choses de l'est. Aujourd'hui, une vie épanouie, c'est synonyme de toutes les choses de réussite, de prospérité, toutes les choses de, à minimum, notre carrière, notre famille, souvent notre influence sur les réseaux sociaux, bien sûr, ou même des vacances, Chaque fois qu'on part en vacances, la première question, c'est pour 2 semaines, c'est pour 3 semaines, c'est pour 4 semaines, parce que ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? On nous dit également, grâce à l'accomplissement personnel et au développement personnel, on peut déterminer ce que l'on veut être et trouver le bon air par notre moi authentique. Et c'est pas loin de Waldo et ses amis. En tant que disciple de Christ, mon problème de mon cœur, c'est que je peux penser que, en fait, c'est même pour eux, c'est pour moi aussi. Je peux penser que, certaines de ces choses, plusieurs fois, plusieurs reprises, chaque jour. Je peux croire que mon identité, c'est basé sur mon bonheur, ou mes expériences, ou mon développement perso, ou peut-être mes enfants, ou mon mariage. Ce que les autres pensent de moi. Et ce n'est pas chrétien, et ce n'est pas certainement pas l'Évangile. Et dans ces deux histoires ce soir, on va regarder un peu les échos de l'Ancien Testament. Échos de l'Ancien Testament. La première histoire que Raphaël a lue, c'était quand Jésus a envoyé ses disciples. C'est un peu, il a envoyé ses disciples avec très peu, un peu comme les esclaves, comme les Israélites, quand ils étaient en Égypte et quand ils sont sortis de l'Égypte dans l'Exode. Ils n'ont pas emmené pas mal de choses, beaucoup de choses. Versets 7 à 13. Et dans la deuxième histoire, versets 30 à 44, on voit un peu l'écho de leur séjour dans le désert. Qui a donné le pain pour les Israélites pendant ce séjour? C'était Dieu. Comme Jésus a fait pour les 5000 hommes dans cette deuxième histoire. Donc à ce moment-là, les disciples sont là, ils regardent Jésus, ils expérimentent Jésus, mais ils n'ont pas compris que Jésus est « Je suis ». Le même Dieu qui était avec les Israélites, c'est le même Dieu qui est devant eux et ils ne comprennent pas. Comme nous, leur vie a été transformée lentement au cours des années avec leur vie et leur expérience avec Jésus. Donc ce soir, nous allons regarder, on va regarder que nous vivons une vie épanouie lorsque notre identité se trouve dans la parole de Christ et dans la provision de Christ. Ça, c'est les deux points. Parole de Christ et provision de Christ. Premier point, versets 7 à 13. Notre identité se trouve dans la parole de Christ. Jésus vient de quitter sa vie de jeunesse et avec ses disciples. Et ils ont quitté cette ville avec de l'opposition. Les gens, ils n'ont pas compris qui était Jésus. Ils ont pensé, il a un dessert, il était là. Donc, ils n'ont pas compris qui était Jésus. Donc, ils sont en train d'enseigner partout dans la région. Jésus appelle et envoie les disciples. Il appela les 12. À les envoyer deux à deux, il leur donna autorité, il leur recommande, ne prend pas beaucoup de choses. Donc, Jésus appelle et envoie ses disciples comme ses représentants. Ils sont là, ils sont en train d'enseigner grâce à l'autorité qu'ils ont reçue par Jésus. Et c'est même son message qu'ils partagent, le message de Jésus. Il les envoie deux par deux, en leur donnant une autorité spirituelle, parce qu'ils n'étaient pas pris de partir tout seuls. Ils ont besoin de collégialité, ils ont besoin d'équipe de partir et pour travailler ensemble. Leur foi n'était pas là, leur cœur n'était pas prêt. Jésus les envoie également avec des ressources très limitées. Il a dit, ne prends pas tout, blablabla. Mais il a donné toutes les ressources qu'ils ont besoin réellement. Aujourd'hui, c'est aussi Jésus qui nous appelle. C'est aussi Jésus qui nous envoie. C'est aussi Jésus qui nous équipe. C'est aussi Jésus qui nous donne l'autorité, qui nous encourage dans une vie simple et humble avec lui. Souvent, on trouve notre identité en nous-mêmes, comme j'ai déjà dit. Souvent, on voit les finances, on voit nos ressources, nos possessions comme notre serveur. Et on peut trouver notre refuge sur toutes ces choses, plutôt que le royaume de Jésus-Christ. Jérôme a dit dans les années 400 que est-ce que ça veut dire que nous avons besoin d'aucune possession, qu'on doit ne utilise rien de tout? Pas du tout. Bien sûr que non. Il a dit, ce commandement s'adresse à ceux qui désirent sincèrement répondre pleinement à la grâce, à être pleinement mûr dans la foi. Mûr dans la foi. Répondre pleinement à la grâce. Parce que quand on nous trouve notre identité en Jésus-Christ seul et dans la parole de Christ, on ne trouve pas notre sécurité dans toutes ces choses que j'ai déjà partagées, mes possessions, mon intelligence, mon éducation, toutes ces choses. On trouve notre sécurité dans sa parole. Et on ne cache rien. On ne cache rien, c'est notre identité, c'est en Jésus. Je n'ai pas besoin de cacher quelque chose avec d'autres personnes. Et par cette formation, par cette transformation, on devient des hommes et des femmes pleins de grâce. Augustin a dit que le pied ne soit ni couvert en haut, ni nu sur le sol. C'est-à-dire que l'évangile n'y soit pas caché et qu'il ne repose pas sur le confort terrestre. Donc, j'ai emmené mon valise ce soir, mes sandales américaines. Mais c'est difficile de cacher mes pieds, n'est-ce pas? C'est difficile. Mais aussi, j'ai un sol. Et ça veut dire que je ne peux pas trouver de confort sur cette terre. J'ai l'évangile entre mes pieds et le sol de cette terre. Nous sommes là juste parce que, pas pour juste cette terre, mais pour quelque chose qui arrive dans l'avenir. Même Paul a dit en Romains 10, 15, comme il écrit, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc, en Christ, vos pieds sont beaux. Vous n'avez pas besoin de chercher une pédicure, OK? Vos pieds sont beaux. Ça, c'est de bonnes nouvelles pour plusieurs personnes. Est-ce que votre vie montre clairement, est-ce que votre vie montre clairement et simplement l'évangile? Est-ce que les gens voient vos pieds de l'évangile? Est-ce que vous trouvez votre confort dans les choses de cette terre? Ou est-ce que vous trouvez des choses dans ce monde? Ou est-ce que vous trouvez votre refuge, votre confort en Jésus? On est appelé comme les disciples à trouver notre autorité et notre identité en lui et dans ses paroles, dans ce qu'il nous a appelé à faire, sans complexité, sans duplicité, juste nous sommes là pour la gloire de Jésus-Christ. Il n'y a pas une séparation entre notre foi et l'œuvre ou la vocation qu'il nous a confiée. Donc ce soir, j'ai emmené mon bagage cabine. Et tu sais, pour des années, j'ai travaillé dans un bureau et j'ai fait le consulting. Et donc, j'ai emmené mon costume. Maintenant, c'est juste pour les funérailles et les mariages. Voilà, ça c'est mon... Voilà. Mais chaque jour, 5 jours, chaque semaine, j'ai porté un costume pour des années. C'était horrible. Mais chaque fois quand j'ai porté ce costume, j'ai pensé, comment ça va marcher? Est-ce que je vais laisser mon foi à côté quand je porte le costume ou est-ce que j'amène avec le foi, avec ce costume? J'ai porté mes jeans aussi. Et tu sais, ce n'est pas juste. Quand je choisis un bagage cabine, je dois prendre des choix parce que avec mon taille, c'est difficile. Ce n'est pas juste en fait. Vous qui êtes très petite, ce n'est pas juste. Vous pouvez ajouter plusieurs sandales, plusieurs chaussures, plusieurs jeans, pas moi. 1, 2, ça suffit. C'est top. Mais avec ces jeans, regardez, c'est la mode. Vous voyez les trous là? Ça vient de mon lapin. Mais voilà, ça c'est des trous. Et souvent, je porte ces jeans parce que j'en ai marre de cette lapin. Mais ça c'est une autre chose. J'ai amené mon diplôme, voilà, et plusieurs casquettes, parce qu'on porte plusieurs casquettes. Et on vient avec ce voyage de vie, et on a toutes ces choses. Et je pense, le problème avec mon cœur, c'est je pense que si je peux ajouter plusieurs choses dans cette valise, ça va aller. Je suis là pour toutes ces expériences, pour toutes ces casquettes, pour toutes ces choses qui me donnent le bonheur. Et pas l'idée que, en fait, si je demeure en Christ, toutes ces choses viennent de quelque chose de différent. Quelque chose de différent. On continue, versets 10 à 12. Puis, il leur dit, « Si quelqu'un part, vous entrez dans une maison, restez jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous accueillent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Rappelez-vous que Jésus vient de son village de jeunesse. Ils n'ont pas bien accueilli ni lui ni ses disciples parce que rien n'était caché. Ils étaient honnêtes. Ils sont venus avec de bonnes nouvelles. Donc, s'il n'y a rien caché, il n'y a que deux réponses. Soit vous êtes bien accueillis, ou soit vous n'êtes pas bien accueillis. Il y a juste deux réponses. Il est important de noter que même s'ils ne partent pas avec beaucoup, ils doivent recevoir un bon accueil de ceux qui l'offrent, comme une grâce et une provision de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas les bienvenus, ils ne sont pas appelés d'être en colère contre ces personnes. Non, c'est juste communiquer le jugement de Dieu, parce que leur identité n'est pas trouvée dans la vie de ces personnes-là, mais leur vie se trouve en Christ et dans ses paroles. Comme on le sait, les disciples seront de plus en plus confrontés par l'opposition. Donc, ils sont en train de comprendre plus en plus dans les versets qui arrivent. Quelques versets plus loin, entre ces deux histoires, on lit que Jean-Baptiste était décapité parce que l'Évangile a toujours été clair avec lui, n'est-ce pas? Il a toujours partagé l'Évangile avec toutes les personnes autour de lui. Il vivait simplement et disait la vérité, et son opposition l'a fait tuer. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous guide au travers de gens sympathiques et de l'opposition. Et ce n'est pas une question de savoir si on va expérimenter l'opposition, mais c'est plutôt quand. Quand on va expérimenter l'opposition. Souvent, on évite les choses difficiles. Moi, je suis première. J'évite les choses difficiles. Quand on expérimente l'opposition ou la souffrance, ça change un peu qu'est-ce qu'on pense de Dieu. Parce que si on souffre, ça veut dire que Dieu est différent que j'ai pensé. Cela montre notre manque d'attachement dans la parole de Jésus. Parce que c'est très difficile de croire que Dieu peut utiliser les épreuves, même pour mon sanctification, même pour sa gloire. Notre foi ne persévérera pas si notre confiance repose sur les opinions des autres et non sur les paroles de Jésus. On va se placer des troncs comme des rois ou des reines et on pense qu'on est meilleur qu'on en est. Ou quelquefois, on sera écrasé par le poids des critiques. La seule façon pour un disciple de grandir dans leur vie avec Jésus, dans sa parole, et c'est d'accrocher à son identité en Christ et dans sa parole, plus que son péché, ses faiblesses et même ses forces. Versets 12 à 13. Par la puissance et l'autorité de la parole de Jésus, les disciples prêchaient pour que les gens se repentent, pour changer leur cœur, pour changer leur attitude. Ils chassaient les démons et guérissaient de nombreux malades. Aujourd'hui, nous avons la parole de Jésus, nous avons une église aujourd'hui à grâce de la parole de Jésus qui est le chef de notre église. Aujourd'hui, en tant qu'ancien, dans notre confession de foi, on applique l'huile aux malades si quelqu'un demande. On prie pour le guérison, car Dieu répond à nos prières. Pas tout à fait comme on veut, mais il répond toujours à nos prières. Donc, le deuxième point ce soir, c'est notre identité se trouve dans la provision de Christ. Versets 30 à 44. Les apôtres ou disciples retournent auprès de Jésus et ils leur racontent tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont expérimenté. Pouvez-vous imaginer? Ils ont vu des personnes qui étaient guéries. Ils ont vu des personnes qui ont repenti. Donc, ils sont venus à Jésus devant ses pieds pour expliquer tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus, il les encourage à s'éloigner pour un temps de repos et de réflexion. Jésus est conscient de vos limites. Jésus est conscient de leurs limites physiques, émotionnelles, spirituelles. Tout l'être, Jésus, est conscient. Ils n'ont pas même eu le temps de manger avant qu'ils soient partis. Vous voyez dans cette histoire que Jésus est plutôt comme un frère ou un ami où vous partagez les choses difficiles avec lui, plus que le Messie. Et c'est aujourd'hui, c'est Jésus qui donne le culte. C'est Jésus qui donne le repos. Quand on trouve notre identité dans la provision de Christ, on expérimente notre Sauveur Jésus comme notre frère. Il y a une union avec Christ là, quand Jésus nous donne la culte, quand Jésus nous donne le repos. Il est là pour la culte, et il est là pour trouver notre repos en lui, par la prière et par sa parole. Il est là pour le haut et le bas. Et on trouve notre satisfaction à partager les réussites et même les échecs. Il prend soin de nous en intégralité. Aujourd'hui, on pense qu'on a besoin, on n'a pas besoin de Dieu. On pense que ce n'est pas nécessaire. Souvent, on crée des limites qui peuvent être bonnes et utiles, mais certaines sont très hautes. Certains d'entre nous ont besoin de se reposer dans le bras de Jésus compatissant, qui donne du repos à ceux qui sont fatigués. Jésus donne le repos pour ceux qui sont fatigués. Notre identité ne se trouve pas dans l'action par nos œuvres, mais en tant qu'enfant de Dieu. Jésus donne le repos. Versets 33 à 34. Alors qu'ils essaient de se reposer, les gens voient Jésus et les apôtres. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont couru après eux pour les rattraper. Jésus montre sa compassion, comme Raphaël a dit, sa compassion à l'égard de la foule. Il était fatigué, mais il a regardé toutes ces personnes qui cherchent un guide et il a pris soin d'eux. Comment il a pris soin? Il a enseigné. Il a enseigné toutes ces personnes-là. Attention, comme j'ai dit, souvent on crée des limites très hautes, mais souvent on crée des limites très basses. Souvent on crée des limites qui peuvent être bonnes et utiles, mais souvent trop basses. On ne croit pas que Dieu puisse augmenter nos limites pour expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu dans une situation difficile. On pense qu'on doit faire par nos compétences, par nos forces. Et on ne laisse pas de temps, on ne laisse pas l'opportunité pour Jésus à remplir nos tasses. Versets 35 à 44. Les disciples se rendent compte qu'il est tard et encouragent Jésus à renvoyer la foule au village pour y chercher de la nourriture. Donc, comme j'ai dit, ils ont vécu toutes ces choses miraculeuses. Ils ont expérimenté l'autorité de la parole de Jésus. Et maintenant, il est avec Jésus. Il y a la foule qui est autour d'eux. Et c'est tard, c'est dans le désert, c'est un peu isolé. Et ils cherchent la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Jésus répond aux disciples qu'ils devraient en faire nourrir la foule. Vas-y, allez-y, nourris ces personnes-là. Cependant, il répond que leur faudrait 200 pièces, je crois, c'est 200 pièces d'argent. Ça veut dire 8 mois de salaire pour payer pour cette nourriture pour ces personnes-là. 8 mois de salaire. Il me semble que les disciples, à ce moment-là, ils ont oublié tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont oublié toutes les choses miraculeuses qu'ils ont vécues déjà quand Jésus a envoyé ses disciples. Et maintenant, ils sont là. Jésus dit, vous avez déjà l'autorité, mais ils ont oublié. Combien de fois chaque jour je oublie? Jésus prend donc les 5 pains et les 2 poissons qu'ils avaient trouvés dans la foule et les fait asseoir par groupe de 50 et 100. Et Jésus prit une bénédiction sur eux. Il rompt le pain et donne aux disciples le pain et les poissons à distribuer. Tout le monde a mangé et ils reportent pas juste, ils ont assez de nourriture, mais ils ont 12 paniers en plus de pain et de poissons. Le nombre d'hommes était environ 5 000, mais 5 000 hommes, ça veut dire, souvent le commentateur pense que ça peut être peut-être 20 000 personnes, adultes, enfants, hommes, femmes. Donc 20 000 personnes. Non seulement Jésus a pourvu leurs besoins, mais il a abondamment pourvu, de sorte que leur panier de nourriture débordait. Aujourd'hui, Jésus est plein de compassion. Plein de compassion, de grâce et de patience pour notre personne toute entière. Jésus pourvoit souvent en abondance à nos besoins lorsqu'on n'a pas le cœur nécessaire pour croire en lui, pour croire dans sa parole, pour croire dans sa provision. Jésus pourvoit souvent en abondance à nos besoins lorsqu'on n'a pas le cœur nécessaire. Qu'on ne voit pas clair dans nos situations difficiles. On pense de juste nos connaissances. On ne croit guère que Dieu puisse prendre nos ressources limitées, nos faiblesses, et les utiliser pour sa gloire, afin de construire son royaume et de changer des personnes autour de nous. Jésus avait envoyé des disciples avec autorité et puissance, et ils avaient fait l'expérience de choses miraculeuses. Pourtant, ils n'avaient pas assez de confiance en Jésus, comme j'ai dit, pour croire qu'ils pouvaient nourrir tout le monde qui était là dans cette 2e histoire. Même s'ils ont fait de grandes choses juste avant, ils ont tellement zappé, ils ont tellement oublié les choses que Jésus a données à eux. Quelques versets plus tard, dans chapitre 6, verset 52, on comprend un peu plus pourquoi. Car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. Ils n'ont pas encore suffisamment de maturité dans leur foi, même qu'ils ont fait toutes ces choses. Il manque des choses dans leur foi. Il manque des choses, peut-être des idoles, je ne sais pas, dans leur cœur. Ils ont le cœur endurci pour aller plus loin parce qu'ils n'ont pas vu ou regardé Jésus comme je suis, qui il est, je suis. Mais Jésus, doux et humble, montre sa compassion et son amour à eux et vers ses disciples, mais aussi la grande foule. Jésus montre la puissance de sa parole et sa provision pour tout ce peuple. Il leur montre pour accroître leur foi et augmenter leur persévérance pour les différentes situations qui vont arriver dans l'avenir. Jésus-Christ enseigne plusieurs fois, heureux les personnes qui traversent les épreuves et les victoires et trouvent leur confiance en lui. Voici une vie épanouissante. Ça, c'est une vie épanouissante. Ça, c'est la bénédiction de Jésus qu'on a. Ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas toutes ces choses. C'est être qu'on a en lui. Aujourd'hui, on peut vivre une vie épanouie lorsque notre identité se trouve dans le pro de Christ, dans la provision de Christ, qui transforme nos cœurs, endurcis, pour qu'ils approuvent de la satisfaction en Christ seul. Que nous pouvons trouver notre satisfaction en lui seul. Notre identité se trouve dans la parole de Christ. Ça veut dire que je vois que la parole de Christ est plus importante. Il a plus une autorité que mes pensées, C'est le fondement de tout ce que je fais, c'est par le pouvoir de Jésus. Si je vois que je suis dans une vie de péché, je comprends que par le pouvoir de Dieu, que je dois changer, je dois repentir. Ce n'est pas juste mes connaissances, ce n'est pas juste mon pensée, c'est à grâce de la pouvoir de Dieu qu'il nous a donné. Le pouvoir de Christ ne nous fera jamais défaut et c'est le seul moyen d'avoir une vie vraiment florissante. C'est le seul moyen. On fait confiance aux ces paroles de celui qui a le premier mot quand on était né, premier mot quand le monde était créé, parce qu'il a le dernier mot. Le premier et dernier mot vient de Jésus. On se croche à sa parole plus que celle de nos réalisations professionnelles, ministérielles, familiales, parce qu'il nous a appelé un mode de vie simple et humble en lui. Il est la règle de notre vie. Notre identité se trouve dans la provision de Christ, qui donne le repos à ceux qui sont fatigués et brisés, et qui donne la guérison à ceux qui invoquent son nom pour toute l'éternité. Peut-être on ne voit pas cette guérison sur cette terre, mais il y aura un moment où nos cœurs seront parfaitement remplis, parfaitement guéris, en union avec lui. En tant que ses enfants, on ne peut pas se reposer sur nos forces, mais ou nos compétences, mais uniquement sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ralph Waldo Emerson n'avait pas raison. N'avait pas raison quand il a écrit « La vie est un voyage et pas une destination ». Mettre notre foi en Jésus change tout. Mettre notre cœur devant lui, ça change tout. Ça change pas seulement notre destination. Ça change chaque personne. Si je demeure en Jésus, il demeure en moi. Et ça transforme tout. Ça transforme comment je fais ce voyage. Je n'ai pas besoin de toutes ces casquettes. Pourquoi je fais ce voyage? Ce n'est pas juste pour mes réussites. Avec ces deux histoires, on se rappelle qu'on est tous en voyage, alors qu'on grandit dans notre identité de Christ, que même comme les disciples, peut-être on a des cœurs endurcis. Peut-être on ne voit pas tous les idoles qu'ils ont juste devant nous ce soir. Mais on a tous besoin de quitter nos Égyptes et les choses qui nous maintiennent en esclavage et trouvent notre Sauveur en Jésus-Christ. Tout comme les Israélites ont dû traverser le désert pour arriver à la terre promise, on a dû aussi marcher dans une longue obéissance dans la même direction jusqu'à le jour qu'il revient. On est guidé par un Dieu trinitaire à travers la parole de Christ trouvée dans la vérité de ses Écritures par le Saint-Esprit. Et on reçoit chaque jour les choses qu'on a besoin. Même si c'est juste aujourd'hui, il nous a donné les choses qu'on a besoin. Et demain, on recommence. Mais il nous a donné les choses qu'on a besoin. On reçoit chaque jour des provisions pour le voyage. Grâce à la bénédiction de son corps qui a été immolé pour nous et qui est ressuscité afin qu'on puisse remporter la victoire. Comme j'ai dit, j'ai emmené mon bagage cabine. Et maintenant, ça ne ferme pas parce que j'ai ajouté pas mal de choses. Et peut-être ce soir, vous êtes là. Et peut-être il y a des choses qu'il faut que vous enlevez. Peut-être il y a des choses qu'il faut que vous enlevez. On a des faiblesses, on a des péchés qui se tournent si rapidement vers des amours inférieurs, mais pas l'autorité qu'on peut trouver en Jésus-Christ. Notre Père aimant, il voit toutes nos perfections, imperfections, pas parce que nous sommes parfaits, mais si vous croyez en Jésus-Christ, Dieu voit que Christ. C'est la seule chemise que vous avez besoin ce soir. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui fait de nous des sources de son grâce et de son amour d'abord. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Parce que le moment quand on peut enlever des choses, ça c'est chouette, n'est-ce pas? On peut ajouter des choses. Et si Jésus demeure en moi, ça veut dire qu'il va ajouter des choses dans mon cœur. La joie, la patience, la compassion. On doit tous nous accrocher aux paroles de Christ, à ce qu'il nous offre, qui nous donne une nouvelle identité en lui-même. Parce qu'on comprend la destination et il veut changer notre voyage. Et ça commence avec lui. Cela nous donne une vie débordante de grâce, d'amour qui ne vieillit jamais, qui remplit nos ventres pour aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et je prie ce soir que s'il y a des choses qu'on doit enlever, que tu peux parler à nous, que tu peux parler dans notre cœur, dans nos cœurs. Et Jésus, je prie aussi que je veux être plus formé avec toi. Je veux que mon cœur est transformé par ta parole, par ta présence, par ton Saint-Esprit. Ajoute des choses dans ma vie. Ajoute des choses dans nos vies. Que ça peut changer notre église, ça peut changer nos familles, ça peut changer nos business, nos entreprises, nos œuvres. Ça peut changer même ce quartier. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire jusqu'à la fin de cette vie ici sur terre. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la célébration, l'équipe de louanges, l'animation. Et on prie pour ces prochains moments qu'on peut réfléchir sur les choses qui existent dans notre vie, les choses qu'on doit enlever et les choses qu'on veut ajouter pour cette année. Amen. Dans le dernier repas, Jésus, avec ses disciples, il a rompu le pain, il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Après, il a pris la coupe. C'est une coupe de la nouvelle alliance. Il a dit, faites ceci en souvenir de moi toute la fois que vous en boirez. Donc, on va passer par le Sainte-Sainte. Sainte-Sainte, c'est là-bas. Et vous pouvez prendre comme vous voulez. Mais réfléchissez-vous sur ces deux questions. Est-ce qu'il y a des choses que je dois enlever? Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais bien ajouter, que vous voulez que Jésus ajoute dans votre vie? Si vous avez des questions, je suis devant aussi. Amen.